Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les batailles de Stalingrad.
Aujourd'hui, 20 septembre 1942, un jeune berger originaire de l'Oural est arrivé dans la ville de Stalingrad, au bord de la Volga. Il a répondu à l'appel du camarade Staline. Armé de son seul fusil, face aux hordes de fascistes qui déferlent sur notre patrie, il leur a vite fait comprendre que désormais on leur ferait payer chaque pas en avant et qu'elles n'ont plus d'autre choix que de reculer.
Avant que Paulus et ses généraux allemands ne se rendent à l'armée rouge, des dizaines et des dizaines de milliers de vies avaient été jetées dans le chaudron de Stalingrad. L'issue de ce combat changea la représentation que les uns et les autres avaient de la guerre. Les alliés, les Allemands, Italiens, Roumains, etc., commencèrent à regarder dans une autre direction. Et un peu partout, les résistants se reprirent à espérer. Aux Françaises déportées du convoi du 24 janvier 1943, partie de Compiègne, les cheminots chuchotaient à travers les portes verrouillées, courage, Stalingrad est reprise. Certes, Hitler avait perdu la ville qui portait le nom de son adversaire, lequel n'était pas tombé dans le gouffre. Mais la bataille a-t-elle eu l'importance décisive que ses vainqueurs lui ont prêtée? La Seconde Guerre, c'est un échiquier, et Stalingrad n'est qu'une pièce importante dans une partie qui se joue dans la profondeur du temps et l'étendue de l'espace. Jean Lopez, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous aviez publié il y a quelque temps un livre, Stalingrad, une bataille au bord du gouffre, et vous animez l'excellente revue Guerre et Histoire qui, dans son dossier du numéro 11, apporte des réflexions nouvelles, du moins en France, sur les batailles de Stalingrad. Je dis les parce qu'il y a eu plusieurs séquences, et puis que cette bataille était doublée d'une autre, elle s'emboîtait dans un ensemble. Vous expliquez d'ailleurs que c'est une des supériorités des soviétiques que de réfléchir à la guerre comme un jeu d'échecs.
Oui, la métaphore la plus intéressante, c'est de dire que les Allemands jouent aux dames. Leur objectif, c'est de liquider tous les pions qui existent sur le plateau. Les Soviétiques, eux, visent à une chose, à atteindre un objectif stratégique, coincer le roi quelque part, et ça peut se faire avec ou sans perte.
L'étendue de l'espace, la profondeur du temps. Rappel du premier acte, Jean Lopez, les Allemands sont entrés en URSS à partir de juin 1941, comme un couteau chauffé dans du beurre. Et l'URSS a perdu quoi, le tiers de ses ressources d'un bloc?
Elle a perdu 5 millions de soldats, le tiers de ses ressources, 40% de ses ressources et le tiers de sa population en 6 mois. C'est probablement le plus grand désastre militaire du XXe siècle.
Staline a pu cependant tenter une contre-attaque fin 1941, début 1942.
Le 5 janvier, les commandants du front de Kalinine, Joukov et Konev, sont convoqués au Kremlin pour une réunion avec le chef de l'état-major, Staline. Staline dit : les Allemands sont désorientés depuis leur défaite près de Moscou. Ils se sont mal préparés pour l'hiver. Voici donc un moment idéal pour une attaque générale. Joukov et Konev savent que cela ne correspond pas à la vérité. Joukov va écrire ensuite qu'il a même osé contredire publiquement le chef de l'état-major.
Qui a tué nos meilleurs généraux? Plus de 40 000 de nos meilleurs officiers, les a appelés ennemis du peuple, les a fait fusiller, a cru en Hitler, a cru que jamais il ne nous attaquerait. Toi et toi seul.
Le film d'Ivan de Passer, un des nombreux consacrés à Stalingrad. On ne va pas faire le commentaire de cette scène, mais j'aimerais vous poser une question centrale dans votre numéro. Jean Lopez, le régime stalinien n'avait peut-être pas préparé l'armée rouge, mais ses méthodes avaient préparé la population à la brutalité de la guerre telle qu'elle allait se dérouler.
Si vous voulez dire que les Russes, les Soviétiques ont souffert comme aucun peuple probablement dans les années 20 et 30 n'a souffert. Alors oui, vous avez raison, les Soviétiques étaient prêts à avaler des souffrances encore plus grandes. Ceci dit, je pense que malgré tout, sur le fond des choses, Staline avait une vue correcte de ce qu'allait être la prochaine guerre, ce qui n'empêche pas qu'il a commis des bourdes colossales qui auraient pu lui valoir sa place et son régime.
Cependant, il avait eu l'intelligence de se mettre dans les pas de la tradition russe et de ne pas conduire, contre les fascistes, ainsi étaient désignés les Allemands, une guerre de communistes.
Non, il a très vite réhabilité les valeurs nationalistes russes, ce qui était déjà d'ailleurs en cours depuis les années 37-38. Et il a par exemple redonné une certaine place à l'Église orthodoxe.
Mes frères, mes sœurs, ainsi parlait-il aux Russes. En tout cas, après cette contre-offensive fin 41, début 42, très désordonnée et très coûteuse en hommes, les buts de Barbarossa, l'opération allemande, n'ont pas été atteints, ni Leningrad qui va subir un long siège, ni Moscou ne sont prises. Vous pouvez nous décrire le front au printemps 42. Alors, vu par un Français, le printemps, c'est la saison où, en principe, on peut lancer des offensives. C'est justement la saison où tout s'arrête.
Oui, le printemps russe, c'est la Rasputitsa, c'est-à-dire la saison des chemins impassables. C'est un moment terrible. C'est un moment qui dure entre 15 jours et un mois selon les années. Les fleuves s'élargissent 3, 4, 5 fois. La boue est absolument partout, tout est paralysé. C'est une période qui est quasiment inapte à la guerre.
Alors si on va du nord au sud, Leningrad, le front là est bloqué, le siège de la ville continue. Au centre, il y a un saillant.
Oui, il y a en effet un saillant, une sorte de grand rectangle qui s'avance jusqu'à 200 km de Moscou et que Staline vit comme une dague pointée sur le Kremlin.
Le saillant, je sens que vous voulez me laisser prononcer le nom de cette ville, R-F-E-J, on va dire le saillant de Jeff. Et puis, au sud, il y a Stalingrad qui est dans la visée des Allemands, qui n'est pas prise. Après le printemps 42, été 42, Hitler déclenche le plan bleu.
Oui, sa grande... Il tente une deuxième fois de mettre KO son adversaire, cette fois-ci avec moitié moins de force, et en se donnant... un objectif extrêmement lointain et divergent, qui est d'une part la ville de Stalingrad sur la Volga et d'autre part le pétrole du Caucase.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de ressources au sud qui lui sont indispensables.
Oui, il y a notamment les énormes ressources en fer et en charbon de l'Ukraine orientale, ainsi que les pétroles du Caucase.
Et c'est parce que beaucoup de troupes soviétiques sont fixées au centre sur ce saillant de...
Rjev.
Oui, il faut que vous appreniez ce nom, chers auditeurs, mais très important tout au long de l'émission, que la percée au sud est plus commode pour les Allemands. Explication du Führer et application par ces soldats en route vers le sud.
Je voulais atteindre un point précis sur la Volga, une ville précise. Il se trouve que cette ville porte le nom de Staline. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'y ai envoyé notre armée. C'est un point stratégique important. On y bloque un transit de 30 millions de tonnes de marchandises, y compris 9 millions de tonnes de pétrole. C'est là-bas qu'arrive le blé d'Ukraine et de Kouban pour être acheminé vers le nord. C'est aussi là-bas que sont exploités les gisements de manganèse. C'est une plaque tournante de grande importance.
Après la guerre, tout ce qu'on voit là, ce sera à prendre. J'ai déjà commandé une dizaine de femmes et 200 hectares. Regarde-les, ils travaillent déjà pour nous. Creusez, esclaves, plus vite. Et comment on dit plus vite?
Davaï et Rukivek, c'est tout ce qu'il faut savoir dire. Rukivek.
Rukivek.
Hey, Adolf va faire construire une autoroute. Elle ira tout droit jusqu'à Kirkov en allant comme ça. Grand pays a besoin d'une chose, c'est que nos camions y roulent.
Ils sont doublés en français, mais ce sont des soldats allemands dans le film Stalingrad de Joseph Vilsmaier. Creuser esclaves.
Oui, c'est le grand... C'est le plan. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui, mais le plan nazi... C'est clairement un plan de colonisation de l'Union soviétique, comme on a pu coloniser l'Afrique, avec en plus une visée exterminatrice nettement prononcée.
Vous avez fait beaucoup d'interviews d'anciens de l'armée rouge. Tel ou tel vous disait, Jean Lopez, si les Allemands avaient traité les Russes comme ils ont traité les Français, ils auraient peut-être gagné la guerre en
Bien sûr, c'était la seule carte à jouer par les Allemands, c'était de provoquer une révolte antistalinienne. Mais il fallait promettre la liberté religieuse, la liberté du commerce, un minimum d'autonomie. Mais si Hitler avait agi ainsi, il n'aurait pas été Hitler. Donc on est dans l'absurde.
Il aurait fallu considérer les Russes et les Ukrainiens comme des hommes et des femmes.
Bien entendu.
Dites-moi, on a entendu des soldats allemands, un petit i parisien dans le doublage. Mais ils sont combien les soldats allemands dans cette offensive du plan bleu et sont-ils seuls?
Au total, il y a 2 millions d'hommes, à peu près la moitié des ressources allemandes dans l'Union soviétique, qui sont investis au sud en direction de Stalingrad et du Caucase. Mais ces 2 millions d'hommes sont divisés en deux parties très différentes. Il y a 1 100 000 soldats allemands, solides, expérimentés, bien armés, bien commandés. Et il y a 900 000 troupes de second ordre qui sont un pêle-mêle d'Italiens, de Roumains, de Hongrois et de Slovaques.
Dites-moi, vous ne les considérez pas comme des soldats égaux aux autres? Un pêle-mêle, des troupes de second ordre, les Roumains en Crimée, peu de temps avant, ils avaient montré des qualités.
Bien sûr, il ne s'agit pas de la valeur individuelle de ces hommes, mais d'une part de leur motivation. C'est difficile de trouver un sens à une bataille qui se tient à 1000 ou 1500 km de chez soi. Quand on est Romain, Bolognais ou même ressortissant de Bucarest, on ne voit pas très bien ce qu'on fait là-bas. Et puis surtout, les promesses allemandes d'armement n'ont jamais été rempli.
Alors cette opération vers Stalingrad, elle est importante pour Hitler, pour les raisons économiques qu'il expliquait, mais aussi parce que la ville porte le nom de son adversaire. Pour Staline, c'est important de défendre Stalingrad, parce que autrement, la Russie peut être coupée en deux.
Oui, en effet, comme le disait votre extrait là, dans le discours d'Hitler, la Volga est un point extrêmement important, 30 millions de tonnes de transit, un carrefour ferroviaire, c'est important.
Août, septembre, octobre 1942, voici des extraits des actualités dites françaises, vous savez, celles qui étaient projetées dans les cinémas. Elles étaient si ouvertement collaborationnistes qu'on devait laisser les salles éclairées à des journaux pour éviter les lazis des spectateurs. Alors, notez, dans ce que vous allez entendre, chers auditeurs, c'est fondamental pour la seconde partie de notre propos, que l'avance, elle est d'abord extrêmement rapide, et puis qu'elle va s'enrayer progressivement à mesure qu'on avance dans l'automne.
Descendant vers le sud, les forces allemandes et alliées se dirigent vers Stalingrad. Les éléments motorisés atteignent le cours inférieur du Don. Les formations germano-alliées avancent, franchissent le fleuve.
Après la traversée du Don, les troupes du maréchal von Bock atteignent la Volga. Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
Les troupes allemandes progressent quartier par quartier, maison par maison. Dans le combat de rue, les adversaires en présence opposent leurs infanteries et leurs troupes d'assaut. Les combats se poursuivent devant la partie nord qui s'étend le long de la Volga sur une longueur de 20 km. Les assaillants attaquent trois grandes usines transformées en bastions. Vraie ville morte, Stalingrad est en ruine. On s'y bat de maison en maison selon des procédés de guerre civile.
Et pendant que Stalingrad devient une académie du combat de rue, on joue un peu partout. La symphonie numéro 7 de Chostakovitch, que voici, elle a d'abord été diffusée par la radio depuis Moscou. Elle est jouée à Leningrad assiégé. On l'appelle d'ailleurs la symphonie Leningrad. Elle est interprétée plus de 60 fois aux États-Unis entre 1942 et 1943.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Lopez, le rédacteur en chef de la revue Guerre et Histoire, dont le numéro 11 février est consacré à une nouvelle vision de Stalingrad. On en arrive en novembre 1942. Notons d'ailleurs, Jean Lopez, que faute de voir s'ouvrir un nouveau front, un second front en Europe, ce que réclame Staline en novembre 1942, il y a le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Ça satisfait un peu Staline.
C'est pas ce qu'il écrit à Roosevelt et à Churchill, où il proteste de façon véhémente en disant « Vous vous moquez du monde, ça ne peut pas être le second front ». Enfin, ceci dit, c'était quand même quelque chose, mais les récriminations ne cesseront pas jusqu'en 1944 de la part de Staline.
Il y a des caricatures dans la presse soviétique où on voit des officiers britanniques représentés avec le stick entre les dents comme de méchants colonialistes en novembre 42. Novembre 42, c'est le début d'une possibilité d'inversion de la situation à Stalingrad. Ça n'est possible que parce qu'il y a, souvenez-vous, chers auditeurs, du saillant de
Rjev.
Il y a au centre de l'Union soviétique ce saillant, cette avance fixée par les Allemands, et Staline décide d'un plan général qui ne concerne pas seulement le sud de Stalingrad, mais qui concerne aussi le centre Rjev.
Oui, c'est une. En fait, on ne peut comprendre Stalingrad que si on a une vision globale qui est celle des Soviétiques, toujours une vision globale. Il y a deux opérations majeures qui sont montées à peu près en même temps. L'une qui vise à enfermer la 6e armée allemande dans Stalingrad et l'autre qui vise à enfermer dans le saillant de Rjev la 9e armée allemande.
Alors, au sud, Stalingrad, c'est l'opération Uranus. Au centre, Rjev, c'est l'opération Mars. Alors, on nous a toujours dit, il faut croire les mémoires des chefs militaires, non ?
Oui, avec des pincettes.
On nous a toujours dit, Joukov, par exemple, qui avait conçu le plan général et qui commandait Mars au centre, il nous a toujours dit, c'était une opération de diversion. Le plus important, c'était évidemment Stalingrad. Oui. Et vous, dans
non,
guerre et
bien
histoire,
sûr,
vous soutenez
regarder,
le contraire.
Oui, il suffit de regarder le nom, les moyens investis par les Soviétiques. Il y a plus de moyens mis à la conquête de Rjev qu'à la conquête de Stalingrad. Donc la cause est entendue. Depuis quand une déversion est-elle plus importante qu'une opération principale ? Non, en réalité, Staline visait à la fois la destruction de cette armée allemande dans le saillant de Rjev et la destruction de la 6e armée du fameux Paulus autour de Stalingrad. Les deux, pas une, mais les deux en même temps.
On s'arrête au centre, à l'opération Mars. Alors vous dites plus d'hommes. Et pourquoi ça ne va pas fonctionner ? Sous le commandement du grand Joukov.
Le grand Joukov va se casser les dents. On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il a en face de lui le meilleur des généraux allemands qui s'appelle Walter Model, la meilleure des armées, une armée 100% allemande, avec une réserve blindée considérable, près de 900 chars modernes.
C'est-à-dire que les nouveaux chars soviétiques, ils ne sont pas efficaces quand les panzers allemands sont là, bien groupés.
Ils sont efficaces, mais d'abord les soviétiques les manient encore comme une pelle à tarte. Ça, c'est certain. En 1942, ils ne sont pas au niveau de leurs adversaires dans ce domaine-là. Et puis surtout... Joukov ne sait pas dans quel guépier il va donner. Son service de renseignement a fait fiasco.
Mais il a des avions, tout plein d'avions. La 3e armée de l'air, vous dites que c'est le regroupement d'avions le plus important qu'on ait jamais connu à ce stade de la guerre.
Exact. Mais Joukov ne commande pas aux éléments et pas un avion ne peut décoller parce que le temps est abominable en novembre et en décembre 1942.
Donc nous sommes en novembre-décembre 1942. Cette offensive Mars va durer jusqu'au 20 décembre. Deux survivants parmi les innombrables soviétiques qui ont été envoyés inonder de leur sang les Allemands au cri de... Qu'est-ce qu'ils criaient, les soviétiques ?
D'après la propagande, ils criaient « pour la patrie et pour Staline ». D'après les récits que nous avons, nous, relevés auprès des vétérans, ils criaient « mat ». En russe, ça veut dire, en fait, toutes les variations sur la lignée maternelle, si vous voyez ce que je veux dire.
Notre mère.
Allez, votre mère. Et on a commencé à marcher. Marcher, marcher. Il faisait noir, 6 heures du matin. Et puis on a commencé à distinguer une espèce de ligne, les barbelés. Comme les soldats n'étaient pas vraiment préparés, ils ont commencé à crier « Hurrah !» Bien sûr, on a réveillé les Allemands. On a couru ensuite jusqu'au barbelé qui était intact. Et là, on a été accueillis par les mitrailleuses. De tout mon régiment, 8 ont survécu. Les autres sont restés accrochés au barbelé.
Moi, j'ai fait l'opération de Berlin. J'ai pris Königsberg aussi. Mais je n'ai jamais rien vu de semblable à ce qui se passait autour de Rjev. C'était un véritable hachoir. C'est ainsi que ceux qui ont survécu appellent cette opération. Ceux qui ont survécu à cela disent qu'ils ont eu le diplôme de l'école militaire.
Un film d'Alexis Pivovarov qui interroge des survivants. Je n'ai rien vu de semblable Oui, à ce que j'ai vécu à Jef.
50% de pertes, entre 70 000 et 100 000 morts, probablement 200 000 blessés. C'est une des plus grandes boucheries qu'on ait jamais vues. En si peu de temps, ça ne peut se comparer qu'à Verdun.
Mais Joukov décide d'envoyer, alors qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir l'emporter à Jef, encore et encore et encore des hommes au hachoir.
Cet homme est têtu, opiniâtre, c'est sa caractéristique numéro un. Il tente de forcer le destin, il pense toujours que la victoire est à portée de la main, il s'entête. Il va échouer, mais ça fera bien les affaires des Soviétiques à Stalingrad, 1500 km au sud.
C'est-à-dire que s'il n'avait pas envoyé des hommes au hachoir jusqu'au 20 décembre, l'opération, venons-en maintenant à ce qui se passe au sud, l'opération Uranus de Stalingrad n'aurait pas abouti.
C'est-à-dire que les Soviétiques auraient de la même façon réussi à encercler la 6e armée de Paulus, mais ce qui aurait complètement changé la donne, c'est que l'opération de dégagement menée par les Allemands aurait réussi, car les Allemands auraient récupéré les 800 chars qui étaient engagés à Rzhev, et je ne vois pas par quel miracle les Soviétiques auraient empêché les Allemands de délivrer Stalingrad et de les priver de cette grande victoire.
Parce que l'encerclement de Stalingrad qui se fait par deux côtés, qui est plus une opération de pince, ainsi que vous la décrivez, qu'une opération d'encerclement, elle se fait au départ avec des troupes dont l'épaisseur n'est pas très grande. Cependant, ceux qui, Allemands, vont être pris dans une poche, peu à peu, 70 km sur 20 km, ils sont moins forts que les Allemands de modèle à Jef.
Ils sont... Cette armée allemande, elle est de grande qualité, la 6e armée, mais ce sont ses alliés, naturellement, qui ont flanché.
Ah, ça y est, vous allez remettre le couvert pour les Roumains et les Italiens.
Ces malheureux Roumains qui ont quand même reçu l'apocalypse sur le coin de la figure, la percée s'est faite à leurs dépens et les Allemands, une fois pris à revers, évidemment, n'ont pas eu le temps de réagir. J'ajouterai que cette armée est chroniquement sous-alimentée et sous-équipée depuis 2 mois. Elle n'a pas encore les moyens de réagir.
Parce que maintenant, on arrive à l'hiver.
On est arrivé en plein hiver, il fait déjà moins 10, moins 15, il n'y a pas de bois, on est dans une steppe totalement rase, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de charbon, les hommes ne peuvent pas se chauffer, il n'y a pas de médicaments, il y a de moins en moins de vivres, on tombe à 150 grammes de pain dès le 2 décembre.
Donc ils sont très mal équipés contre le froid. Vous décrivez le chapeau des Roumains, je reviens à mes chers oui. Roumains, un bonnet extraordinaire. Sauf que le bas du visage n'est pas protégé.
Non, je dirais que contrairement à ce qu'on peut dire, les troupes allemandes de première ligne sont très bien équipées contre le froid, sauf que très bien équipées contre le froid, ça veut dire rester 4 à 6 heures dehors, pas 24 heures sur 24. Quel que soit l'équipement, les hommes finissent par s'affaiblir très vite.
Par où passait le ravitaillement? Il y avait des avions.
Le ravitaillement, une fois la poche et l'encerclement constitués, les Allemands ont monté le plus grand pont aérien de ce qui est à l'époque le plus grand pont aérien de l'histoire. Mais ce pont aérien va être un échec. Il leur sera impossible de ravitailler les 300 000 hommes, plus de 300 000 hommes, à un moment 340 000 hommes coincés dans la poche.
Les souvenirs d'un officier allemand maintenant, Eberhard von Lebeck. Et ensuite, le point de vue du général Paulus, qui dans les derniers jours de Stalingrad va même être élevé par Hitler au rang de maréchal.
Dans nos radios, tous les 7 secondes, une voix monotone fit entendre. Tous les 7 secondes, meurt un soldat allemand, Stalingrad, Massengrab, c'est-à-dire Stalingrad, fosse commune. Et le tic-tac d'une montre lointaine. Tic-tac. Tic-tac. Puis, de nouveau, tous les 7 secondes, meurt un soldat allemand, Stalingrad, Massengrab.
Ces snipers démoralisent mes troupes.
Mon armée n'est pas faite pour ce genre de combat. Hier encore, j'ai dû promouvoir 25 sous-officiers pour remplacer les officiers abattus par les tireurs embusqués.
Cette ville n'est plus qu'un amas de ruines. Et le Führer s'obstine encore. Il en a fait une affaire personnelle entre Staline et lui. Bah, c'est notre Führer, faisons confiance à son instinct. Grâce à lui, l'Allemagne a toujours connu la victoire.
Ça, c'est ce qu'aurait pensé, d'après le film de Jean-Jacques Haneau, le futur maréchal Paulus. Von Paulus, disent les Soviétiques, mais Paulus tout court.
Oui.
Après la guerre, il s'est construit une autre représentation de lui-même, ce cher Paulus. Il est devenu un pionnier de l'amitié germano-soviétique et il a passé pour anti-nazi.
Oui, contraint et forcé, en fait. Ouais. Il est Bon, on ne peut pas dire qu'il ait été nazi, mais il a, comme tous les généraux allemands, il a été totalement complice de son Führer de A à Z jusqu'à ce que les choses tournent mal. Et puis, en effet, la captivité en Union soviétique l'a amené à cautionner la constitution d'un comité des officiers allemands libres en vue d'une Allemagne démocratique sous domination soviétique. Il a habité la RDA, mais les soviétiques n'ont pas été très tendres avec lui. Jamais.
Si je comprends bien, il ne faut pas croire les mémoires de Paulus, non plus qu'il faut croire les mémoires de Joukov. Et alors, il y a aussi des mémoires assez intéressantes d'un autre acteur, Manstein, qui est envoyé par Hitler pour essayer de sauver Paulus et de lui permettre une percée, de faire la jonction.
Oui, donc.
Il ne faut pas croire non plus.
Non,
Manstein,
qu'on propose toujours comme le grand génie allemand. Vous savez, un homme, pourquoi écrit-on des mémoires? Pour justifier son action, pas pour dire la vérité. C'est quand même une règle que tous les historiens connaissent. Il faut toujours prendre tout cela avec des pincettes et être extrêmement critique. Mais ce Manstein, finalement, il abandonne Paulus à son sort et il essaye de tirer parti de cette situation. Paulus, au fond, avec ses malheureux squelettes hagards qui se battent dans la steppe, il va quand même réussir l'exploit de bloquer 6 ou 7 armées soviétiques pendant 90 jours, ce qui a permis aux Allemands de se reprendre finalement sur le front sud. Et ça, Manstein l'a compris très vite et il a accepté d'utiliser Paulus.
Quand vous avez interrogé pour un livre « Grandeur et misère de l'armée rouge » Elena Bonner, la veuve de Sakharov, elle vous dit « Ce qu'il faut croire peut-être, c'est les officiers ». Soviétiques, les lieutenants et les sous-lieutenants.
Les lieutenants et les sous-lieutenants.
Une des intelligences, une des marques d'intelligence de Staline a aidé d'ailleurs d'évaluer le rôle des commissaires politiques, de réévaluer pendant cette bataille de Stalingrad le rôle des simples officiers.
C'est en pleine bataille de Stalingrad, le 9 octobre 1942, que Staline met fin au double commandement et à la surveillance des officiers par les commissaires.
On ne va pas compter le nombre des morts. Stalingrad, fosse commune, disait cet officier allemand il y a un instant. Les corps sont gelés, on est l'hiver, ils peuvent attendre avant d'être jetés. Les véhicules soviétiques roulent sur eux, ce serait trop long de les éviter. Alexander Wirth, le journaliste anglais qui travaillait en suivant les opérations soviétiques, parle même d'un village, n'est pas sûr du fait, où les enfants soviétiques auraient utilisé un allemand gelé comme luge pour dévaler les collines.
Oh, ça n'a rien d'étonnant. Je pense que ces enfants soviétiques en ont tellement vu. Enfin, c'est terrible. Après, aujourd'hui encore, vous parliez d'Orgef. Aujourd'hui encore, des dizaines d'associations vont sur les lieux de la bataille d'Orgef et déterrent de sinistres souvenirs de cette période tous les jours. Des ossements, des balles, de la ferraille en tout genre. C'est un sport local, tellement il y en a.
Tandis que du côté russe, dit Vassili Grossman, un soleil d'hiver brille au-dessus des tombes collectives. Les morts dorment sur les hauteurs des collines, près des ravins et des combes, là où ils se sont battus, terre sainte.
Aus dem Führer Hauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende.
Chers auditeurs, le 3 février, un communiqué spécial du haut commandement des forces armées allemandes apprit la fin de la bataille de Stalingrad. La nation allemande, fière de ses fils et avec elle l'Europe entière, s'incline devant ceux qui sont tombés dans cette ville avec leurs camarades roumains et croates. Le sacrifice de nos frères d'armes ne fait que renforcer notre volonté farouche et notre croyance inébranlable en la victoire finale.
C'était en février 43, il y a 70 ans, le docteur Friedrich, chroniqueur allemand de la radio collaborationniste Radio Paris. Le numéro de Guerre et Histoire numéro 11 que vous pilotez, Jean Lopez, est consacré à une nouvelle vision de Stalingrad. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Michel Bézikian et Martin Guénard. La préparation, Franck Olivard et Frédéric Martin. Demain, l'Indochine française.